Bonjour à toutes et à tous. Pour ce dernier épisode d'À l'ombre du festival, je tenais d'abord à remercier de nouveau Émile Petit-Perrin pour le générique et Étienne Cimetière-Cano pour l'aide logistique. Alors aujourd'hui, pas d'invité hors revue, puisque je suis accompagné de Pierre-Jean Delvolvé. Salut Pierre-Jean.
Salut Marin.
Voilà, que vous avez sans doute vu dans des Bulcanoises et dont vous avez sans doute lu des textes sur le site pour commenter le palmarès. Donc voilà, épisode un peu spécial, épisode bonus on pourrait dire. Et donc on va voilà, revenir un peu film par film sur le palmarès. Et pour commencer, Pierre-Jean, je ne sais pas si tu as une impression générale de ce palmarès.
Non mais en fait c'était une soirée un peu particulière parce que bon, comme d'habitude le jeu des pronostics nous a pris pas mal de temps toute la journée. On a vu passer, comme d'habitude, un certain nombre de noms. Et puis après, on a vu tous les rappeler sur le tapis rouge avant que la cérémonie commence. Et donc, on pouvait anticiper les noms qui allaient être au palmarès. Et c'est vrai que dans un premier temps, il y avait un peu de, voilà, de contentement parce que ces noms qu'on voyait revenir sur le tapis rouge étaient plutôt les noms des films qui nous avaient, des réalisateurs et des réalisatrices, des films qui nous avaient le plus intéressés. De manière inégale, j'imagine, mais bon, tout de même, on était quand même assez content du casting. Et finalement, il faut bien dire que l'ordre choisi, au-delà des manques dont on parlera sans doute, l'ordre choisi m'a paru quand même finalement assez convenu. Hein. On a un palmarès assez classique, avec des noms qu'on aurait pu anticiper même avant même le début du festival, notamment celui de la Palme d'Or. Hein. Il faut quand même dire que le film de Jafar Panahi était déjà cité comme un potentiel palmable avant même que le festival commence. Voilà, donc c'est un sentiment un peu partagé, avec à la fois la sensation que bon, c'est un palmarès cohérent, mais qui ne nous fait pas non plus nous lever de notre chaise, malgré la présence de films qu'on aime à l'intérieur.
Et on va commencer tout de suite avec le début du palmarès qui a commencé par un énième prix spécial qui voilà, ils nous sortent ça de temps en temps. C'était le cas l'année dernière avec Les Graines du Figuier Sauvage, donc c'était le cas, je me souviens, avec le livre d'images. Cette fois-ci, Résurrection de Bigan, donc a obtenu un prix spécial. Donc effectivement, de loin, ça donne un peu la sensation voilà, de film un peu... indémêlable, ovni, et voilà, on est obligé de créer un prix pour ce truc, donc c'est un peu décevant. Et bon, dans la revue, on est assez partagé sur le film. Je crois que c'est Josué qui aime beaucoup. Vous avez sans doute vu la Bulcanoise à ce sujet, alors que c'est assez marrant parce que Josué, c'était quelqu'un qui attendait pas tellement ce film-là parce qu'il était un peu mitigé sur les précédents films de Bigan, alors que ceux qui attendaient énormément le film, toi, Corentin, moi, d'autres gens encore, ont été peut-être un peu déçus par ce film qui prend beaucoup de forme, qui pèse un peu 3 tonnes, voilà, avec une ouverture vraiment éblouissante, je pense. Ouais. Ça, on est tous d'accord pour le dire, quelque chose de vraiment nouveau dans son cinéma, donc la partie muette, puisque c'est un film qui, comme ça, va retracer... à travers un personnage un peu de Sandman, d'homme de rêve révoleur. Il dit ça dans une mythologie comme ça, un petit peu baroque et naïve. Un personnage qui va naviguer à travers les époques, et ces époques sont comme autant de genres cinématographiques. Et donc ça commence par un film muet, un peu enfumé, un peu fleur de Shanghai, comme ça, dans une maison d'opium. Enfin, je sais pas si on dit maison d'opium.
Bar à opium, peut-être. Ouais,
bon, ça c'est vraiment sublime, ouais. Et c'est vrai qu'on a été déçus, nous deux, je crois, par quand le film passe en scope, et que là les trois parties qui suivent sont assez.
Elles sont inégales, parce que quand même dans ces parties en scope, il y a quand même des choses très très belles. Moi, je défends quand même beaucoup la partie film noir du film. En fait, le film, revenir un tout petit peu sur cette idée de prix spécial, parce que comme toi, je pense que je suis vraiment horripilé maintenant par ces titres, ces prix inventés pour des films inclassables. Et d'autant plus que ce film-là, alors bon, en effet, comme toi, j'ai éprouvé une petite déception devant le film, parce que j'aime vraiment beaucoup les précédents films de Bugan, et que c'était sans doute le film qu'on attendait le plus. Je pense quand même que j'aime plus le film que toi et que Corentin, notamment parce que c'est peut-être une appréciation générale des films, mais je dois dire qu'avec des pics aussi forts que cette ouverture et le bloc final, notamment le plan séquence évidemment qui a déjà été évoqué dans la Bulcanoise et dans le texte de Corentin, mais aussi le dernier plan du film que je trouve assez bouleversant personnellement. Je dois dire quand même que évidemment le film contient parmi les plus belles choses que j'ai vues à Cannes cette année, et que il était évident pour moi qu'il devait avoir une vraie place au palmarès, et que lui inventer vraiment un prix comme ça, Voilà, un prix spécial qui pourrait être quasiment un prix spécial pour l'histoire du cinéma. Parce que une des choses quand même qui, à mon avis, me décontenance un peu quand même et nous décontenance beaucoup dans la revue, c'est ce côté un peu, voilà, film anniversaire du cinéma, pour les 100 ans du cinéma, avec une dimension, alors, en effet, qu'on pourrait considérer candide, assez belle, assez naïve, mais qui a aussi quelque chose d'un peu sentencieuse quand même dans le film.
Ouais, je suis d'accord.
Quelque chose d'un peu, voilà, anniversaire du cinéma. Et là... Voilà, on se dit un peu, et je crois que c'est quelque chose qu'évoque Corentin dans son texte, que c'est peut-être un film que Bigan fait un peu trop tôt. Voilà, ce film d'anniversaire du cinéma, qui est encore un peu jeune pour affronter, voilà, pour avoir ce côté rétrospectif, même si bon, voilà, ça reste un voyage quand même très impressionnant, que j'ai hâte de revoir le film,
Oui,
et
et il me
qu'il aurait
semble
pu
par
être là,
ailleurs
au prix de la mise en scène, par exemple.
Il me semble par ailleurs que le film vient juste d'être terminé et qu'en réalité il va encore y avoir quelques touches, notamment au montage et des parties qu'on aime le
Un
moins
peu
dans le film
moins,
en plus. Donc voilà, à voir. J'ai hâte aussi de revoir le film quand bien même j'ai été assez déçu par l'espèce d'obésité comme ça du film.
ouais.
Bon, on vous renvoie à la vidéo qu'on a publiée, la dernière Bulcanoise, et au texte de Corentin Lee. On passe au prix d'interprétation en commençant par le prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura dans L'agent secret de Kléber Mendoza-Filho. Donc je dois dire que quand j'ai vu le film, c'est effectivement le premier prix qui m'est venu en tête parce que voilà, donc on suit cet agent secret qui n'en est pas vraiment un, qui est vraiment juste un type qui, voilà, un jour a eu peut-être un petit acte insurrectionnel et qui, voilà, dans un régime militaire, dans une dictature militaire, qui, voilà, dans le Brésil des années 70, ça va faire de lui, un peu malgré lui, cette figure d'agent secret. Et la mise en scène, dont on parlera après, puisque le film a aussi eu le prix de la mise en scène, va se coller à ce système d'intégrer un personnage dont on suit simplement une forme de chronique dans la ville de Recife à un système qui serait celui du film noir, du film d'espionnage. Et pour ça, je dois dire que la prestation de Wagner Moura, effectivement, est assez belle. Enfin, il a quelque chose de secret, en effet, dès le début du film. Et les fausses pistes que multiplie, enfin, les fausses pistes que multiplie le film, donc à la fois dans la mise en scène, ce côté très stylisé aussi de l'ouverture, se rejouent en réalité, je trouve, dans la prestation, où voilà, cet homme moustachu a l'air de cacher quelque chose, alors que finalement, c'est voilà, il a plusieurs prénoms. Voilà, alors
Oui,
que.
et puis cet acteur joue deux rôles d'ailleurs, hein, puisqu'il joue deux
Oui,
personnages
c'est
sur
vrai,
deux
par
générations
ailleurs.
différentes, donc c'était aussi un peu ça qui nous faisait penser qu'il aurait pu avoir le prix quand on a découvert le film. Bon, par ailleurs, il n'y avait pas une concurrence non plus gigantesque, hein, sur le prix d'interprétation masculine. Il y avait plusieurs interprétations féminines qui pouvaient prétendre à ce prix. Sur l'interprétation masculine, donc il y avait moins de monde, donc c'est vrai qu'on pouvait anticiper ce prix. Moi, j'avoue que j'avais plutôt parié pour le film de Kléber Mendoza-Filho sur la Palme d'Or, parce que je pense que c'était probablement le film qui suscitait l'enthousiasme le plus général, quoi. Il y avait quelque chose de bon, peut-être pas celui qui avait généré le plus d'enthousiasme chez ceux qui l'adoraient, mais en tout cas un film qui avait à peu près mis tout le monde d'accord, même si dans la revue, on est quand même un peu plus réservé. Moi, je fais partie de ceux qui sont relativement convaincus, même si le film s'évapore un peu, je dois dire, dans mon souvenir. Mais bon, mon pronostic se confirme, puisque le film a eu deux prix, donc je pense que voilà, ça s'est joué vraiment entre avec le film de Joachim Trier et le film de Panahi pour celui-là. Mais oui, sur cette interprétation, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. En effet, je trouve que sa prestation est intéressante et redouble en effet le mystère du film, qui est parfois un mystère un peu appuyé, mais assez intéressant, ouais.
Je pense qu'on peut parler maintenant du prix de la mise en scène pour pas alterner entre
Oui,
les films, même si
pour ma
voilà,
part.
question de méthodologie.
Ouais.
Donc ouais, pour parler peut-être un peu de la mise en scène, disons que le film est assez efficace dans cette manière que je viens de décrire, de distiller un peu des fausses pistes, de travailler différents genres, d'avoir comme ça des mouvements assez amples avec peut-être un morceau de bravoure vers la fin du film où là vraiment on rentre dans le genre et il y a une longue séquence de filature qui se déplie dans la durée, dans la ville, etc. Voilà, là le film est assez convaincant, mais c'est pas non plus un film éblouissant, je trouve, en termes de mise en scène, c'est.
Bah, disons que sa mise en scène, elle a quelque chose de voyant et d'intéressant, qui est vraiment ce que tu as dit, ce jeu de fausses pistes qui accouche finalement de quelque chose d'un peu déceptif, hein, puisque au fond, on vend un film d'agent secret, qui commence comme ça sur des images très mystérieuses et très emblématiques, hein. La première scène là-dessus est assez forte, et puis des scènes qui évoquent un cinéma de genre très riche des années 70, hein, évidemment, le Kléber Mendoza-Filho revendique voilà, ce type de référence. pour aboutir finalement, et moi je trouve que c'est l'opération que le film réussit assez bien, même si c'est une opération limitée, à révéler quelque chose de beaucoup plus petit, qui est finalement, de beaucoup plus petit, qui est une page très importante de l'histoire du Brésil, mais au fond une intrigue universitaire, une intrigue de démantèlement du service public. Et du coup ça produit quand même quelque chose d'assez fort à la première vision, même si voilà, je dois dire que ça s'évapore un tout petit peu, et peut-être que le film a quelque chose d'un peu séduisant, qui nous met un peu à distance et qui, dans un jury comme le.
C'est peut-être plus une affaire de scénario, quoi. Pour
voilà,
moi, quand même,
moi c'était plutôt un prix du scénario.
Quand même, le film est convaincant.
Honnêtement.
Et j'aurais donné le prix de la mise en scène à Kelly Reichardt, évidemment. Pour
ça, on est tous d'accord là-dessus. C'était évidemment le prix de la mise en scène pour Reichardt, mais elle n'était pas là.
Je n'ai pas de bulle canoise vers laquelle vous renvoyer, mais vous pouvez lire le texte qu'on a publié, qui est écrit par un certain Marin Gérard. Nous avons ensuite donc prix d'interprétation féminine pour Nadia Meliti dans La Petite Dernière de Afsia Herzi. Donc voilà, un film qui ne nous a pas complètement convaincus. Peut-être que voilà, c'est le troisième film de Afsia Herzi. On est dans une adaptation littéraire, également une idée d'une chronique, comme ça, un an dans la vie d'une jeune femme à la fois musulmane et lesbienne, et comment ça va s'incarner, comment ce conflit va s'incarner de façon parfois assez lourde. D'ailleurs, je me souviens d'un raccord assez brutal entre une scène de sexe sous la douche et puis hop, des ablutions devant la mosquée. Donc voilà, on reste dans le motif aquatique, mais pour illustrer un peu les deux versants du personnage. Mais néanmoins, moi je dois dire que c'est quand même, je crois, dans la revue, je suis la personne qui préfère ce film, que je trouve quand même évite pas mal d'écueils. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où il semblerait que le film installe quelque chose de l'ordre du conflit, où on s'attend qu'effectivement le personnage d'un coup fasse son coming out et que ça crée des problèmes dans sa famille, etc. Et le film navigue un peu entre tout ça pour cueillir quelques moments de tendresse vraiment assez émouvants, et cette tendresse s'incarne vraiment par cette actrice et par les actrices aussi qu'elle rencontre. Je crois que les second rôles sont assez bons aussi. Et l'actrice est marrant parce que on se faisait la réflexion que Afsia Herzi la dirige un peu comme elle
oui.
joue, quoi. Elle a quelque chose de très renfermé. Voilà, c'est comme
une version
émotion
encore plus discrète, quoi. Voilà,
exactement. Ouais.
Mais je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'aime vraiment pas beaucoup le film, pour être honnête. Je trouve que c'est une version un peu rapetissée et presque résumée de ce que pouvait produire de plus beau le cinéma de Kechiche. Hein. Je suis obligé d'y penser. Il y a vraiment des scènes qui évoquent de manière très très littérale la vie d'Adèle. Et disons que en fait, je retrouve un peu ce qui peut me gêner dans la vie d'Adèle, c'est-à-dire parce que je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait que le film évite les grandes scènes de conflit, mais en fait sa façon de l'éviter me paraît quand même un peu systématique, et notamment ça s'imprime pour moi dans la dernière séquence du film, que je trouve quand même très très lourde, avec sa mère pour essayer de voilà d'aborder le conflit sans vraiment l'aborder. Je retrouve un peu cette lourdeur qui est chichienne, mais qui serait vraiment réduite et qui aurait pas ce qu'il y a de bouleversant chez Kechiche, qui est vraiment la durée, quoi, en fait, vraiment la façon d'épuiser comme ça. Et du coup on remplace le conflit de classe par le conflit religieux au fond, par rapport à la vie d'Adèle, mais on l'aborde comme ça de manière très rapide, très survolée. Moi j'ai eu l'impression que le film avait été rattrapé au montage par endroits.
Ce qui est pas mal, c'est que c'est pas, enfin on va pas parler trop longtemps du film parce que c'est un petit prix, mais c'est que c'est pas un sujet en fait, ce conflit, ça reste un conflit individuel pour le personnage. C'est là où je trouve que le film est aussi intéressant. C'est pas un film qui raconte la religion versus l'homosexualité, c'est vraiment un film qui raconte ce personnage et comment il navigue à travers ça, et de façon assez originale. Simplement pour terminer, c'est vrai que bon, c'est un film réalisé par une actrice, donc on est forcément attentif aux acteurs. Donc on a parlé de celle qui vient de recevoir le prix, mais c'est vrai qu'il y a d'une manière générale une certaine originalité de casting dans le film, dans les seconds rôles. Je pense par exemple à un imam assez surprenant et un docteur
qui
est un
truc de jeu.
Voilà. Donc mine de rien, c'était pas illogique que ce prix-là, même d'une manière générale.
Non, mais ça c'est certain. Il y a une qualité de direction d'acteur, et c'est vrai que cette actrice a quelque chose de surprenant et de très retenu, et qu'on a même senti là quand elle a reçu son prix, elle garde comme ça cette espèce de d'émotion contenue qui en effet apporte une certaine étrangeté au personnage et pourrait approfondir le film. Mais je dois dire au milieu quand même d'une forme qui me paraît trop relâchée pour vraiment, vraiment me convaincre.
On passe, il y a donc, vous pouvez lire, pas de bulle canoise non plus pour La Petite Dernière, mais vous pouvez lire un article de Robin Vaz sur le film. On passe au film des frères Dardenne qui a obtenu le prix du scénario. Donc jeune mère des frères Dardenne qui sont là parce que voilà, il faut que les Dardenne soient là.
On serait
déçus. Je ne sais pas s'ils avaient déjà eu le prix du scénario, j'aurais pu vérifier.
J'ai un doute, j'ai vraiment un doute.
Je sais qu'ils ont eu le prix de la mise en scène.
La mise en scène, c'est sûr, plusieurs fois. Et même, mais bon, c'est sûr.
Des
prix d'interprétation, en veux-tu, en voilà. Et des prix du jury aussi. Mais je dois dire que là, bah, peut-être que tu veux commencer.
Vas-y, je vais commencer.
Non, parce que je dois dire que moi, je suis plutôt. Je sais que c'est un peu un running gag de s'attaquer à la présence systématiquement des frères Dardenne et en compétition et qui plus est au palmarès, parce qu'il y a toujours cette blague de se dire qu'au fond il y a des jurés américains qui découvrent ce cinéma pour la première fois et qui sont estomaqués parce que c'est quand même un cinéma très singulier, très fort. Moi je dois dire que à chaque fois j'ai tendance à les défendre parce que je trouve qu'il y a toujours chez eux quand même un sens de la mise en scène, une précision et quelque chose qui se renouvelle dans leur système quand même, qui en effet un cinéma systématique, mais bon, qui contient toujours, même dans des films plus mineurs, des situations, des raccords, et puis un regard qui est quand même vraiment très singulier, quoi, qui parvient à traiter des sujets dont il traite, c'est-à-dire voilà, une misère sociale, en étant à une distance qui m'impressionne toujours assez, quoi. Et là, je dois dire qu'on a vu le film ce matin, nous, je me demande si c'est pas le film que j'aime le moins des frères Dardenne. C'est un film que je trouve très systématique, très arc-bouté sur son scénario, qui est en plus un scénario très répétitif, qui a une, alors sans le résumer parce que je pense que voilà, bon, en plus le film sort en salle et voilà, il sera facile à découvrir, mais c'est un film choral, ce qui n'est pas si fréquent que ça chez les frères Dardenne. On suit plusieurs personnages de jeunes mères, comme son nom l'indique, et ça produit quelque chose. C'est-à-dire, je dois dire que la précision de la mise en scène des Dardenne, que ce soit dans les premiers films comme Rosetta, mais jusqu'au dernier qu'on a vu, Tori et Lokita ou Le jeune Ahmed, qui étaient des films que j'aimais plutôt bien, c'était quand même une façon d'épouser de façon nette et précise le point de vue d'un seul personnage, et ce qui permettait de déplier comme ça des situations et d'éviter disons la lourdeur programmatique du scénario, parce que les séquences pouvaient exister pleinement avec ce personnage qu'on suivait de manière rigoureuse. Et là, le fait d'en avoir comme ça plusieurs et de les accumuler, bah, au fond ça donne des situations très répétitives que les cinéastes comme ça martèlent un peu et qui produisent vraiment quelque chose d'assez terne, d'assez misérabiliste.
Ouais, bah, au-delà de la répétition, moi je suis plutôt d'accord avec toi aussi, le film ne m'a pas beaucoup plu. C'est vrai que comme on passe d'un personnage à l'autre, on dirait que les Dardenne se concentrent un peu sur le sel de cette histoire, donc sur les scènes les plus conflictuelles. Donc en fait, on arrive sur quelque chose d'assez cliché où, comme on n'a pas éprouvé réellement la vie des personnages, le quotidien des personnages, on va rentrer directement dans le moment où ils s'engueulent avec leur mère, leur copain, où il se passe des choses extrêmement dramatiques. Donc ça va créer quelque chose de très artificiel qui est assez inhabituel quand même, je crois, chez les Dardenne.
Josué parle de yo-yo, je crois, dans son texte.
Oui,
c'est un
ça.
Peu ça, c'est vraiment un yo-yo émotionnel, passer comme ça de pic émotionnel en pic émotionnel.
J'ai vu passer pas mal que le film avait une certaine efficacité mélodramatique, et je dois dire qu'en fait ce caractère artificiel du scénario m'empêche un petit peu d'y accéder.
Je suis d'accord.
J'ai par ailleurs, voilà, je peux citer quand même, allez, disons, pour on est clément, le soleil se couche, et un décadrage que j'ai trouvé assez beau lorsque l'une des mères demande aux parents adoptifs de sa fille s'ils pourront lui apprendre un instrument de musique, et quand ils confirment que oui, ils le feront, elle leur tend l'enfant, et là la caméra se détache de l'enfant pour l'accompagner, elle en train de faire un câlin à quelqu'un qui travaille à la maison maternelle, et donc voilà, cette disparition de l'enfant à l'intérieur même du plan, d'un coup ça m'a un petit peu réveillé, disons, dans un film que je trouvais systématique dans son scénario, mais aussi dans sa mise en scène, et plus que d'habitude.
Oui, je suis d'accord avec ça. Mais bon, évidemment, oui, comme tu dis, il y a toujours des petits pics, hein, mais c'est vraiment un film très très mineur.
Et donc, tu l'as dit, il y a un texte de Josué Morel à lire sur Criticat. On passe au prix du jury, qui, une fois n'est pas coutume, est un prix ex aequo. C'est vraiment le prix sur lequel, je ne sais pas, Thierry Frémaux autorise les ex aequo et pas sur les autres, ou que sais-je. J'ai peut-être fait des erreurs dans des palmarès. Et voilà, qui est souvent l'occasion d'un camoulox certain entre les deux prix. Moi, j'avoue que je ne remettrai jamais de Adieu au langage et Momie ex aequo en prix
2014,
du jury en 2014. Voilà. Je voulais vous rappeler ce souvenir assez merveilleux. Donc on commence avec le premier film qu'on a vu ici en compétition, Sound of Falling de Masha Chilinski, sur lequel j'avais tourné une bulcanoise avec Josué, et c'est lui qui a écrit le texte.
Ouais, bah écoute, bon, Sound of Falling, c'est marrant parce que c'est notre premier film ici en effet en compétition, et c'est un peu notre première dissension. Moi j'étais un peu circonspect en sortant du film parce que je dois dire que j'avais quand même un peu souffert devant. Mais ce qui est intéressant, parce que je vais faire les deux films d'un coup, je vais aussi parler de Sirat dans le même moment, puisqu'on est sur le prix du jury. Sound of Falling quand même avait cette ce qui justifie à mon avis ce prix. Je vais essayer de me mettre dans la peau de Juliette Binoche et de son jury, c'est que ce sont deux des films les plus aventureux formellement quand même, qui sont deux films qui ne reposent pas sur des logiques de scénario, que ce soit Sirat ou Sound of Falling, qui ont vraiment l'ambition comme ça de reposer sur des logiques formelles qui provoquent forcément des choses assez inattendues. Et je dois dire que Sound of Falling, pour revenir spécifiquement sur celui-là, m'a laissé quand même quelques images, malgré la dimension un peu punitive parfois du film, qui est quand même cette espèce de gros mastoc en costume, un peu misanthrope, qui peut être un peu agressif et un peu punitif. Il y a quand même une espèce de choses un peu étranges qui échappent dans cette... dans cette fragmentation du récit, dans cette façon de créer des rimes visuelles et sonores un peu étonnantes, même si, encore une fois, le film dure 2h30 et m'a paru quand même assez répétitif, contrairement à Sirat, qui est un film qui a convaincu, je crois, à peu près tout le monde dans la revue, qui était à ma palme d'or, comme vous pouvez le voir dans notre tableau, où là, malgré évidemment des petites zones de tâtonnement, comme on avait pu l'analyser dans la... dans la Bulcanoise avec Corentin, à laquelle j'avais participé. Sa dynamique de rupture de ton, sa dynamique formelle qui est vraiment qui cherche comme ça à créer des détonations, des fluctuations comme ça très inattendues, moi m'a vraiment convaincu. Je dois dire que ça reste quand même les émotions les plus fortes que j'ai ressenties au festival cette année, et je suis du coup quand même très agacé de voir que ce type de film là, franchement, pour le dire un peu nettement comme ça, il est tard, c'est la fin du festival, je préfère quand les films ne sont pas au palmarès que quand on leur donne des lots de consolation comme ça, quand c'est des films que je considère aussi importants. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu ridicule. Franchement, ils ont dû voir l'enthousiasme qu'avait généré le film chez certains et les discussions, et donc il fallait lui donner une place. C'est comme quand ils avaient donné Memoria, le genou d'Aed, rappelle-toi, en 2021, comme ça, un prix de consolation pour les modernes. Honnêtement, je trouve ça assez ridicule.
J'aime bien parce que tu prends très à cœur le palmarès, et moi j'arrive après, je suis un peu plus détaché de ce cirque, mais j'aime bien. Non, en deux mots, Sound of Falling, du coup, il y avait une vidéo, donc je vous y renvoie. J'étais quand même assez réceptif aux arguments de Josué, qui était assez convaincu par le film, avec quand même de grosses limites. Mais pour moi, c'est quand même typiquement le film dans lequel il y a une mouche qui passe dans le cadre et qui fait bzz bzz dans environ... dans 80 scènes à peu près. J'exagère évidemment.
Et des drones un peu.
Et Sirat, pareil, c'est un film. Vraiment, devant le film, je me disais ce que je vois est très séduisant et très excitant. Est-ce que je suis en train de me faire avoir? Mais une semaine après avoir vu le film, je crois quand même que le film travaille quelque chose de très puissant sur. Sur le paysage, sur une impression de fin du monde, sur purement l'esthétique de ce que c'est la techno, et plus précisément l'ambiance techno aussi, qui est un sous-genre dont je suis friand, mais c'est pas pour ça que j'aime le film. Mais voilà, on va pas en parler plus. Il y a donc une bulcanoise avec Corentin et toi, ainsi qu'un texte écrit par Robin Vaz. On passe au Grand Prix Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Je connais assez mal Joachim Trier, c'est seulement le deuxième film que je vois de lui. Le précédent, c'était Julie en 12 chapitres. Là, le film, ça m'a semblé assez curieux, je dois dire. Je crois que j'ai un problème principal avec le film, qui est que j'ai du mal à croire à son personnage de réalisateur, incarné par Stellan Skarsgård. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu le truc quand j'adore, moi, quand il y a des personnages de cinéastes dans les films ou d'artistes en général. Et la grande question à chaque fois, c'est est-ce que le film parvient à me faire croire à l'existence de cet artiste, c'est-à-dire que le film doit en gros créer une autre forme à l'intérieur de son film. Et là, c'est vrai que les scènes qu'on voit de tournage, le discours de ce qu'elle regarde, non seulement me semble assez lourd, ce qui en ferait un cinéaste, à mon avis, pas très intéressant s'il existait, mais ça, c'est pas le problème, parce que je pense que le film, mine de rien, a une certaine distance par rapport à ça.
Quand même, ouais.
Mais voilà, disons que j'y crois pas tout à fait, et du coup, tous les enjeux concernant ce tournage, y participer, le fait que la grande scène émotionnelle du film, c'est les deux sœurs qui lisent le scénario et qui sont en larmes. Voilà, j'ai du mal un peu à accéder, disons, à la valeur sentimentale du film.
Ouais, bah, sur ce que tu dis sur le cinéma, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que ça se joue pas uniquement sur les scènes de tournage. Je pense que vraiment le bloc où on a le plus de mal à croire un cinéaste, c'est vraiment une partie au festival de Deauville et qui se joue dans une partie du film où c'est marrant parce que c'était déjà un peu le cas de Julie en 12 chapitres, mais qui était à mon avis un film quand même plus convaincant. C'est quand même le film repose sur une première partie assez elliptique avec des scènes très courtes comme ça, et notamment il y a une scène où ça m'a marqué, c'est la scène entre Elle Fanning, qui donc joue une star américaine qui rencontre le cinéaste joué par Skarsgård au festival de Deauville, donc, et ils se rencontrent, ils se disent à peu près deux mots, et en un cut on est sur la plage à se faire des papouilles et à danser comme ça autour de chevaux, voilà, une représentation comme ça totalement folklorique de la plage de Deauville, et on est censé comprendre la vision de ce cinéaste et le rapport au cinéma de ce cinéaste avec une sorte d'extrait d'une masterclass. Quiconque a assisté à une masterclass de cinéaste est un peu consterné quand même par ces blocs-là qui sont vraiment des représentations extrêmement clichés de ce qu'on peut attendre d'un, voilà, de la représentation d'un grand cinéaste comme ça contemporain. Du coup, je te rejoins assez sur le film. C'était logique quand même que le film soit au palmarès, il faut le dire, le film a suscité un enthousiasme quand même assez délirant.
Je viens d'en dire du mal, mais voilà. Le film quand même m'intéresse.
Toi, tu aimes plus
et
le film
parvient
que moi,
à me toucher. Enfin, il y a quand même une logique de charme chez Joachim Trier qui opère plutôt notamment grâce à ses actrices que je trouve vraiment fortes.
Voilà, voilà, ça joue beaucoup sur les acteurs.
Sur des non-dits aussi.
Voilà, ça joue beaucoup sur les acteurs, mais je tiens quand même à en mettre un tout petit peu une couche sur les limites que j'ai avec le film. Par rapport justement à Julie en 12 chapitres, où je suis d'accord avec toi, il y avait comme ça vraiment un truc de charme qui était limité mais qui prenait vraiment. Là, je trouve que le charme prend pas tout à fait parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu volontariste. On parlait du film des Dardenne dans cette façon aussi de faire succéder les confessions en larmes. Je trouve qu'il se repose un peu trop sur les larmes de ses comédiennes. Et c'est un peu une logique comme ça d'intensité, qui est d'ailleurs la logique revendiquée aussi par le cinéaste du film. Et qui, à mon avis, quand même produit finalement assez peu de choses à la fin. Qui a un sentiment un peu bourgeois aussi, qui est lié à cette histoire de maison pas très intéressante au début du film.
Là où il y a une ambiguïté qui m'intéresse, disons, c'est que donc le metteur en scène dans le film fait des plans séquences très chorégraphiés, et ce sont les plans les plus composés du film qu'on est en train de voir. Oui. Mais néanmoins, le film de Joachim Trier, ses plus belles scènes reposent sur, pour moi, de simples chants contre chants entre les deux sœurs, qui sont les deux personnages un peu les plus émouvants du film.
Mais c'est quelque chose dont parle Josué dans son texte, cette élaboration
de
la mise en scène.
Donc on y
revient.
Et pas de vidéo, malheureusement, pour nos statistiques. Et malheureusement, pour nos statistiques également, la Palme d'Or a été obtenue par Jafar Panahi pour un simple accident. Donc on n'a pas de vidéo, on a simplement un texte de Corentin Lé. Donc oui, voilà, comme tu l'as dit un peu au début de la vidéo, c'était peut-être qu'on s'y attendait un petit peu parce que voilà, Juliette Binoche, non seulement a travaillé avec Abbas Kiarostami, qui était, comme on le sait, le maître de Jafar Panahi, mais par ailleurs... parle souvent en tant que personnage.
Elle a été
publique.
Un grand soutien. Elle a, à Cannes, juste quand il était en prison, elle avait fait un discours adressé à Jafar Panahi.
Et donc,
lui-même.
C'est le film, comme tu dis, post-prison. Donc, Jafar Panahi a depuis été libéré. Il avait été emprisonné par le régime iranien. Je trouve que ça se sent quand même. Il y a quand même une espèce de pesanteur, mais dans le bon sens du terme, peut-être de solennité du film, d'adresser vraiment ces sensations post-prison, puisque tous les personnages du film sont des gens qui sont passés par cette case prison en Iran et par la case torture, plus précisément. La case, c'est un peu horrible comme expression, je m'excuse.
Oui, oui.
Et c'est vraiment, voilà, le Panahi va faire à la fois un conte philosophique sur la vengeance. Est-ce qu'il faut se venger des sous-fifres du régime qui nous ont torturés, mêlé à une forme de série B extrêmement concrète. Et je dois dire que dans cette alternance, moi, le film m'a quand même plutôt convaincu. Je trouve que c'est vraiment un film efficace. Je sentais venir dès le début qu'il allait avoir une fin un petit peu ouverte. C'était le cas. Donc, quelque part, le film ne m'a pas totalement surpris, mais non seulement c'est un film efficace dans ce qu'il raconte et la manière dont il le raconte. Mais en plus, c'est vrai qu'en tant que metteur en scène, disons la rigueur panayenne, si on peut parler comme ça, un peu héritée de Kiarostami avec ses plans-séquences fixes, cette manière de filmer comme ça, de façon très perpendiculaire dans des voitures, donc qui rappelle aussi tous les films motorisés de son maître, m'a quand même fait beaucoup de bien pendant le festival. Voilà, c'est vraiment un film tenu. On n'attend pas d'une palme qu'elle soit simplement tenue, mais disons que c'est un film tenu et quand même assez intéressant et troublant, in fine, sur ce caractère philosophique que j'évoquais. Voilà, en plus d'être constitué sans doute, on entendra peut-être parler, une certaine épine dans le pied du régime iranien, ce qui n'est pas...
Oui, ce qui n'est pas pour nous déplaire forcément, mais bon, je te rejoins assez, même si moi je suis plutôt plus réservé que toi, parce que je pense que ce côté calibré me laisse quand même trop à distance, et notamment je trouve que ça se joue dans son écriture, plus que dans sa mise en scène, parce que je suis d'accord avec toi, il y a quand même une espèce de précision qui était bienvenue dans le festival, même si parfois elle sert quelque chose. Je suis quand même obligé d'utiliser ce terme, d'un peu démonstratif dans le scénario. Bon, tu parlais de série B, le genre auquel ça peut se rattacher aussi, oui, tu parles de conte philosophique, on est chez Beckett en fait. Hein, et tu vois, typiquement sur la dimension beckettienne, un peu de l'attente de que faire d'un corps, que faire dans une situation comme ça absolument atroce et insurmontable, on est obligé de penser à Beckett. Et que fait Panahi, malheureusement, il le cite explicitement dans un dialogue très artificiel. Et je trouve quand même, bon. Je ne veux pas résumer le film à un dialogue artificiel comme ça, mais c'est quand même des choses qu'on retrouve.
Détail, mais je suis d'accord que ça pointe une limite aussi.
Ça pointe quand même quelque chose d'un peu démonstratif qui va se retrouver dans la dernière partie du film. Moi, je suis quand même un peu obligé de penser... Bon, c'est pas les mêmes films, mais je trouve que le film avait un peu la place du film de Rasoulov l'an dernier, Les Graines du Vieil Sauvage, même si c'est un film, je suis d'accord, beaucoup plus précis dans sa mise en scène.
Je préfère le Panay.
Voilà, bon, c'est un film quand même plus précis, mais disons
plus
que
court aussi, une heure de moins.
C'est un film
en ligne droite aussi.
Absolument, mais quand même qui revient un peu à une logique de. Je suis désolé de le dire parce qu'évidemment on parle d'une réalité terrible, mais quand même un peu de leçons à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui se martèle un peu, notamment autour d'une dernière scène, enfin d'une avant-dernière scène, on ne révélera pas, qui à la fois m'impressionne assez parce qu'elle a comme ça des logiques de retournement et les logiques de pouvoir s'inversent progressivement et elle révèle des choses du personnage, des personnages de manière assez inattendue. Mais en même temps, je trouve que là, il y a quelque chose là-dedans de presque un peu trop théâtral d'un peu trop téléguidé. Tu disais qu'on pouvait anticiper le dernier plan et la fin ouverte. Bah, c'est quand même un problème pour moi. Je trouve que le film produit ça quand même régulièrement.
Finir sur quelque chose d'une ouverture, mais parce que la question qu'il pose est insoluble. Mais je ne savais pas quelle allait être cette fin ouverte. Après, simplement pour te répondre, et on s'arrêtera là sans doute, sur cette ultime séquence, cet ultime coup de force, le climax un peu du film, je trouve quand même qu'il travaille une forme d'ambiguïté qui est assez fort dans les retournements du personnage. C'est-à-dire, déjà, j'aime bien que le plan séquence entre en contradiction, disons, avec le fait que c'est vraiment un plan dans lequel des personnages ne vont pas cesser de changer. Et donc, il y a quand même une idée assez puissante que de faire ça en un plan, c'est-à-dire vraiment il va y avoir, bon, je réutilise le terme de yo-yo, mais un yo-yo émotionnel, mais qui va passer dans un seul plan. Donc il y a effectivement, c'est théâtral comme tu le dis, mais je trouve que ça raconte quelque chose aussi du caractère, comment dire, le genre du film, quoi, c'est-à-dire vraiment dans un petit espace-temps comme ça, puisque c'est un film qui se passe en 24 heures à peu près, il va se passer énormément de choses, il va y avoir un trajet émotionnel et
toutes les dimensions du régime, politique, la dimension paranoïaque,
sur la paranoïa, je trouve aussi que le film est plus ambivalent qu'il ne semble. Parfois. En tout cas, c'est peut-être un film qui a un petit peu clivé dans la revue. Moi, je serais plutôt pour, sans trouver que ce soit une palme extraordinaire.
C'est le cas d'ailleurs du texte de Corentin aussi, qui est plutôt pour.
Corentin est aussi plutôt positif, même si je crois que, par exemple, Josué est moins, Fabrice également. Bon, voilà, un film on est mitigé, disons, sur cette palme. Et en plus, on n'a pas fait de vidéo YouTube, comme je l'ai dit, donc ça, c'est vraiment... catastrophique pour les stats. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce podcast tout au long du festival et de nous avoir lu et regardé. Et on se dit sans doute à l'année prochaine pour un prochain Festival de Cannes.
Merci beaucoup.